Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, rendre une vigueur au classique littéraire, une montée de sève assortie de quelques boutons d'acné et d'une humeur de dog, en un mot, les ramener à l'adolescence. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui a 15 ans et demi et pour toujours. Ma camarade de lycée, du genre à contester les profs et à libérer la grenouille qu'on devait disséquer en cours de biologie, c'est Constance. Bonjour Constance.
Bonjour Clara, vous êtes ma meilleure amie pour la vie.
Voilà, la BFF, la sex-symbole de la cantine, la seule fille majeure du pensionnat, car elle a redoublé 4 fois, Liliane Rodière. Bonjour Liliane.
Bonjour Clara.
Et enfin, la blonde diaphane qui a toujours les félicitations du conseil de classe sans que personne ne soupçonne que les murs tagués du CDI, c'était elle. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour Clara.
Le classique que nous allons faire rajeunir ce dimanche, mesdemoiselles, vous allez devoir le deviner. À la façon de Julien Lepers, qui considère qu'il a été évincé de questions pour un champion à cause de son âge, alors que pourtant il a toujours eu la passion d'un jeune prépubère. Je demande votre concentration, êtes-vous prête?
On y va. On y va.
Je suis le prix Goncourt 1984. Je suis court, je suis chaud, je suis culte. Et c'est vrai qu'à première vue, je raconte la passion torride entre une jeune fille de 15 ans et demi et d'un homme chinois de 12 ans son aîné, beaucoup plus riche qu'elle. Pas sûr que je sois publiable aujourd'hui, mais je m'en tape, j'ai été vendue à 1,5 million d'exemplaires. Mon action se déroule en Indochine dans les années 30, ce qui n'arrange pas l'imaginaire érotique, moiteur, humidité, fleuve Mékong. C'est justement sur un bac qui traverse le fleuve Mékong que mon héroïne rencontre cet homme chinois. Ils iront ensuite s'aimer dans une garçonnière en pleine ville. En vérité, je raconte bien plus que ça. Je raconte une famille complètement fracassée, avec une mère faible, un frère aîné voleur et cruel, un petit frère victime et mon héroïne. Je raconte une tentative de survie dans ce milieu hostile qu'est la famille, bien plus junglesque que l'Indochine. Je suis à l'image de ce bac sur le Mékong, un livre de l'entre-deux, entre deux rives, entre deux âges, deux identités, deux classes sociales. Je suis.
Je crois que je sais.
Bon, je vais buzzer toute seule. L'amant de Marguerite Duras.
Oui, mais j'avais lu les mémoires d'Adrien, c'est ça, c'est ça.
Moi, j'ai pensé à Louis la Brocante, le côté chaleur.
C'est vrai que c'est bien. J'avais pensé à Martine en Chine.
Ok.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Monod sur France Inter.
Alors, histoire de mourir moins bête, et je pense que vous en avez grand besoin, saviez-vous qu'il existait un lien très fort entre Marguerite Duras et le chanteur Hervé Villard? Et je ne parle pas de leur coupe de cheveux qui, à un moment, c'est vrai, était assez similaire. Non, mais ils étaient très amis. Hervé Villard l'a vu écrire « L'amant » dans sa maison des Roches Noires. Marguerite Duras lui lisait à voix haute tout en battant une omelette. C'est ce qu'il a raconté. En retour, elle lui a écrit la chanson « India Song » et elle était fan de « Capri, c'est fini ». En résumé...
C'était ma copine. Je crois qu'elle aimait les mots de mes chansons. Elle était toujours étonnée des gens qui pouvaient et savaient écrire des chansons.
Hervé Villard sur France Inter en novembre 2020, parlant de Marguerite Duras. Voilà, donc maintenant, nous sommes mûrs pour apprendre que Modiano lit ses textes à Mylène Farmer en égouttant les spaghettis. Et personnellement, ça me remplit de joie. Je reviens au bac sur le Mékong. Pour embarquer vers la péninsule du sud-est asiatique, nous aurons un guide, Joël Pagès-Pindon. Bonjour capitaine.
Bonjour Clara Dupont-Monod.
Joël Pagès-Pindon, vous êtes entre autres vice-présidente de l'association Marguerite Duras. Vous avez décortiqué ses textes dans moult publications. Dites-nous pourquoi L'amant est devenu à ce point un livre culte.
Alors, je crois que finalement, votre quiz, là, c'est bien cerné. Duras, qui était très lucide sur elle-même et sur ses œuvres, disait « Je suis très connue, mais je suis connue autour pour de mauvaises raisons ». Et je dirais que l'amant, c'est un peu pareil. L'Amant est un livre culte pour de bonnes raisons, je vais en parler très vite, bien sûr, vous l'imaginez, mais aussi pour de mauvaises raisons. Alors les mauvaises raisons, c'est cette conjugaison peut-être facile d'érotisme et exotisme, c'est le côté voyeur d'un lecteur devant ses amours très physiques entre, vous l'avez dit, la petite Blanche de 15 ans et demi et l'amant chinois de 12 ans son aîné, et c'est aussi, parmi les mauvaises raisons, je crois, une littérature de l'aveu qui nous ramènerait vers ce que Malraux appelle le misérable petit tas de secrets qui définirait l'homme ou la femme, et en l'occurrence Duras, cet auteur élitiste, intellectuel, qui enfin dévoilerait ce petit tas de secrets. Mais ça, Duras en était assez consciente, et dans un entretien, elle dit « Oui, beaucoup de gens aiment l'amant, ils y voient la famille dingue, Saigon by night et tout le bastringue colonial. » Donc, mauvaise raison, si je puis dire. Et les bonnes raisons, il y en a mille. La première, c'est que c'est, et vous l'avez dit finalement dans votre quiz, un magnifique récit initiatique sur ce difficile basculement de l'enfance à l'âge adulte.
Symbolisé par le bac sur le Mékong, où tout se joue en fait.
Symbolisé par cette traversée du fleuve, c'était un des titres auxquels Duras avait pensé pour l'amant, qui est à la fois la traversée du bac et la traversée aussi aller vers l'autre rive, où on perd l'innocence de l'enfance et où on gagne la souffrance et la jouissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et puis il y a, je ne peux pas ne pas mettre dans les bonnes raisons d'en faire un livre culte, la langue. C'est une composition musicale. On n'est pas dans la linéarité du récit chronologique. Elle dit « j'ai composé ça temps par temps hein, », pas tout à fait caprice et fini, mais temps par temps et mesure par mesure. Et il y a une beauté poétique dans les fulgurances de l'instant, les sensations qui se mêlent, la dimension très métaphorique du texte qui fait que c'est un texte magnifique. C'est normal que ce soit un livre culte.
Et puisque vous parlez de la beauté du texte, est-ce que vous nous liriez, Joël Pagès-Pindon, le passage que vous préférez de l'Amant de Marguerite Duras?
Bien volontiers. Quelquefois, c'était à Vinlong, quand ma mère était triste, elle faisait atteler le tilbury et on allait dans la campagne, voir la nuit de la saison sèche. J'ai eu cette chance pour ces nuits, cette mer. La lumière tombait du ciel, dans des cataractes de pure transparence, dans des trombes de silence et d'immobilité. L'air était bleu, on le prenait dans la main. Bleu, le ciel était cette palpitation continue de la brillance de la lumière. La nuit éclairait tout, toute la campagne, de chaque rive du fleuve jusqu'aux limites de la vue.
Oh mais c'est beau quand vous le lisez, Guillaume Gallienne a du souci à se faire. Hein. Parce que moi, je suis prête à plonger dans les eaux du Mékong. Merci Joël Pagès-Pindon pour cette lecture de l'Amant de Duras. Est-ce que je suis la seule? Avez-vous aimé ce livre, Cécile Coulon?
Alors pas personnellement.
Ok.
Mais ça viendra, sans doute.
D'accord. Je pense que si vous congédiez vos amoureux, amoureuses dans votre vie comme ça, au moins
c'est rapide, c'est efficace.
Ah, c'est sûr.
C'est très efficace.
Il y a zéro espoir. Liliane Boudière.
Moi, j'ai adoré. Et voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment suivi toute ma jeunesse. Je suis tombée dedans. Vous parliez de musique. C'est ma Beyoncé à moi, c'est ma Queen et je l'adore.
Constance.
Alors moi en fait, j'ai adoré ne pas aimer ce livre parce que je me suis demandé pourquoi je ne l'aimais pas. Du coup, je me suis rendu compte que je l'avais beaucoup aimé. Ça m'a un peu embrouillé comme livre.
Alors
ça
je ne veux pas connaître vos vies sentimentales à tout autour de cette table. Je me dis que ça doit être très compliqué.
Clara,
alors moi, c'est plus simple. Moi, quand je lis, je cite « déshonoré », disent les gens. Et moi, je dis « comment ferait l'innocence pour se déshonorer ?» Et ben moi, je pardonne tout à Marguerite Duras. Je pardonne la forme parfois bizarre du livre, sa prose parfois irritante. Je pardonne au personnage aussi, qui est quand même aussi un peu tête à claque. J'ai cette question sublime, forcément sublime, qui m'accompagne. Comment ferait l'innocence pour se déshonorer? Je trouve ça superbe. Alors, innocence, évidemment, ça rime avec Constance. Vous admirez la transition. Je me tourne donc vers Constance, la femme des... parfois. Comme l'héroïne de L'Amant, femme des premiers émois, Constance, femme des premières phrases. Voilà, on y arrive. La première phrase de L'Amant, vous nous la disséquez, Constance.
Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi.
Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette voix, Constance ?
C'est la voix avec laquelle j'ai lu L'Amant de Marguerite Duras.
Mais du coup, vous allez parler comme ça, je veux dire, toute la chronique, parce que c'est très pénible, hein. Et puis clairement, cette fausse manière de fumer une cigarette, c'est grotesque.
Impossible de me détacher du personnage. Cette lecture m'a littéralement transformée. Je suis désormais prisonnière de cette ambiance moite et malsaine indochinoise. Je suis passée d'un climat tropical à un climat tropical.
C'est un splendide jeu de mots, je vous félicite. Mais dites-moi, vraiment toute la dissection de la première phrase, vous faites avec cette voix, on est sûr de ça?
Un jour, j'étais âgée déjà. Oh, elle va faire ça, elle va faire toute la première phrase avec cette voix, c'est infernal. Je dis, quand j'étais âgée déjà, c'est faux. Je dis ça pour rassurer le lecteur, mais je dis ça aussi pour le dérouter. Moi-même, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, car je ne fais que dire des choses, et puis la ligne d'après, je les nie d'oiseaux. Je suis bien couverte, vous savez, car même si je suis peu vêtue, je porte sous mon feutre d'homme deux casquettes, celle de la victime, mais aussi celle du bourreau, parce que je prends la cruauté pour de l'amour à cause de ma mère, la saleté, ma mère, mon amour. Je suis je, et puis je suis elle. Je change de personne comme personne ne change de personne. Qui êtes-vous? Je suis personne, non personne. Il y a quelqu'un? Revenez plus tard, je suis occupée. Moi j'ai mal au crâne, je vais aller dans le kangou, là me reposer un peu, je vous laisse avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quel art d'emporter le lecteur tout au fond de mon spleen, de le rendre voyeur, de le rendre à la fois abuseur et abusé, de le mettre en position de témoin qui ne portera pas assistance à personne en danger. Le lieu public, c'est moi, enfin, c'est elle. Car toute la société imagine ce que je fais en secret, au grand jour. Elle imagine, elle sait, elle croit savoir. Les non-dits hurlent. Ma révolte est sourde. Comment ? Ma révolte est sourde. Comment ? Ma révolte est sourde. Non, laissez tomber. Le lieu public, ce sera aussi ma vie intime. Car en écrivant, je sais que mon histoire personnelle sera lue, disséquée et fera de moi une exhibitionniste pudique. Publique ? Non, pudique. Publique ? C'était une figure de style. Sortez de ma chronique. Excusez-moi, elle était encore là. Il faut partir, madame, maintenant, parce que vous mettez vraiment une ambiance de merde sur ce plateau. Cet homme à qui je ne donne pas de nom, cet amant sans réelle identité que j'affirme ne pas aimer, je lui offre tout de même toute la place en lui donnant le titre de mon livre. Mon écriture est glaciale et brûlante. Aïe, la vache. Je me suis brûlée, page 32.
Martine, tu veux venir m'aider? Il y a la dame de la 112 qui recommence avec son amant chinois, là. Oui, madame, on va bientôt venir. Voilà. Mais calmez-vous. Venez, on va dans la salle télé, on va regarder Mulan. Ça vous fait plaisir quand on regarde Mulan? Allez, voilà, on y va.
Merci, Constance. Alors, capitaine Joël Pagès-Pindon, la première scène de L'Amant parle d'un visage, je cite, lacéré de rides sèches et profondes à la peau cassé. Et c'est le seul visage qu'on aura. L'amant chinois n'a pas de visage, il n'a même pas de nom, comme le disait Constance dans sa chronique, ni la mère, ni les frères. C'est un livre sans nom et sans visage. Comment vous expliquez cela ?
Alors, ce que vous dites est assez troublant, parce que, enfin, si j'essaie de bien y réfléchir, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai. Il n'y a pas de visage, le visage de l'amant, nous ne le voyons pas, le visage des frères, la mère à peine, bon. Et c'est vrai aussi que chez Duras, le visage est rarement décrit. En même temps, je disais, ça n'est pas tout à fait juste, parce que quand on évoque l'amant, on a aussitôt sous les yeux ce visage magnifique de Marguerite Duras à 18 ans, c'est une photographie qu'elle montre pour la première fois dans le film Les Lieux de Michel Porte, où elle dévoile cet album familial, et cette photographie, elle est omniprésente, et le film, Jean-Jacques Hano va s'en servir, parce que l'affiche, ce sera pratiquement le décalque de ce visage magnifique. Alors, peut-être, là aussi, c'est l'opposition entre le texte, qui ne montre pas de visage, et puis l'image, la photographie, et on sait que pour Duras, évidemment, le texte est supérieur à l'image et supérieur à la photographie.
Le Tinder chinois s'appelle Tantan. pourquoi vous parlez du Tinder chinois. Cela signifie peut-être que Cécile Coulon va nous faire sa chronique en chinois. Mais oh non, là là. Mais non, Cécile Coulon, vous vous êtes plutôt demandé à quoi ressemblerait l'annonce Tan Tan de l'amant de notre héroïne, de l'amant du livre L'amant.
Eh ben, on va se replacer dans le livre. On est au début du XXe siècle. Il fait chaud. La climatisation qui fait vouh, vouh, vouh dans les hôtels au-dessus de votre lit et qui vous donne un rhume dans l'avion ou dans le train n'existe pas encore. Tout comme les procès pour détournement de mineurs, les traitements contre l'acné, tenaces et les sextapes. Dans cette ambiance désuète mais réjouissante, tout est possible. Surtout si vous êtes un garçon et que vous avez de la thune. Et pas forcément beaucoup de thunes, juste ce qu'il faut pour payer des pioles au mercure et des bières au crépuscule. Alors, si vous avez tout ça, c'est, comme on dit dans la cour du collège de Saint-Éloi-les-Mines, la fête du slip. Et finalement, ça n'a pas tant changé que ça. C'est à se demander si Marguerite Duras, surnommée Marguerite Durail par les gens comme moi, qui pensent à chaque fois qu'ils ouvrent l'amant...
C'est chiant, vraiment. Oh.
C'est à se demander donc si elle n'a pas inventé l'influenceur du débarcadère, le beau gosse des colonies, exotique et touchant, qui pleure autant qu'il humilie. Bref, le profil Tinder par excellence. Alors cet amant, à quoi ressemblerait son profil en 2021 ? Premier bon point, l'amant est bien sapé. Le type sort de sa limousine dans son beau costume. C'est Julia Roberts avec 30 cm de moins et 18 cm de plus. Et franchement, quand on lit sa description, on n'est pas chez Célio. Costume sur mesure, matière noble, plusieurs épaisseurs malgré la chaleur étouffante, cheveux et moustaches parfaitement coupés, lissés, lustrés. Voilà un homme fait pour la une de Paris Match, pour des partenariats branchouilles sur Instagram. Voilà le genre de type qui dégage une assurance malgré sa petite taille, mentionnée par l'héroïne, comme quoi c'est pas la taille qui compte, sauf celle du portefeuille ou de l'ourlet de pantalon. C'est le genre de gars à qui tu n'oses pas envoyer un message, parce que tu es persuadé qu'il en a déjà 200, et qu'il peut choisir ses conquêtes comme on choisit un melon, en lui sentant la queue. Le genre de profil de site de rencontre pour qui tu te demandes, mais pourquoi un gars comme ça recherche l'âme sœur, il est parfait, c'est louche. Et oui, comme on dit au championnat du monde de potage, c'est louche. Il est riche, bien habillé, bien propre. C'est déjà pas mal pour un homme. J'ai connu des garçons riches qui sentaient la chèvre. Et des hommes qui se lavaient au déodorant de la dernière rangée du bas au Carrefour Market. Alors ce qu'on ne verrait pas sur ce profil, c'est qu'il a la peau vérolée dans
c'est
le
vrai.
Texte.
Oui.
Et si vous voulez savoir ce qu'est une peau vérolée... Imaginez une pizza au chorizo, restée trop longtemps en vitrine, ayant reçu les pellicules d'un serveur transpirant. À côté d'une peau vérolée, l'acné, c'est du fond de teint. Mauvaise peau, mauvaise hygiène de vie, pas de yoga, pas de légumes, pas de méditation. L'amant pleure pendant l'amour, lave sa maîtresse à l'eau froide et paye la mère pour coucher avec la fille. Bref, l'homme idéal, quoi. Bien sapé, mal fagoté. Finalement, comme souvent, l'amant déçoit.
On dirait que tu l'aimes pas, non ?
Ah bah c'est pas mon pote, quoi.
Joël Pagès Pindon, l'amant en question qui vient de se faire déboîter la tête par Cécile Coulon.
Oui, mais je pense que Cécile n'a pas dit que cet amant avait quand même des traits de grande modernité, c'est-à-dire qu'il n'affiche pas une virilité qui, à l'heure actuelle, n'est peut-être pas très bien vue sous certains aspects, et qu'il a cette espèce de d'ambivalence et de douceur qui fait d'ailleurs toute la beauté de cette initiation que va connaître la petite Blanche.
Voilà, ah, mais c'était
juste une parenthèse.
Cécile Coulon, elle a des problèmes avec la douceur aussi. C'est ça l'idée, finalement. Voilà.
Bah, avec Clara, on en reparlera quand vous me caresserez le dos.
C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanquiqui, sa tanquiqui, sa tanquinoise. D'autres lui ont les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir en cause de tas de choses, avant de se mettre au pieu, au pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Manchurie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu, y a même l'amour livre, c'est curieux, car ose l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son anana, son anana, son anamique. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan kiki, Satan kinoise. Dont celui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, son anana, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan kiki, Satan kinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
Ma tonkinoise, Joséphine Baker.
France Inter, Livre et châtiment.
Je pose des mots beaucoup de fois, des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots.
Vous vous foutez de moi, là ?
C'était Marguerite Duras en 1984, suivie de Louis de Funès, dont on ne se lasse pas. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui fait le mur, pour retrouver son king sur le Mekong, comme dirait Nougaro. Ce dimanche, c'est l'amant de Marguerite Duras, à qui on donne un coup de jeune. L'histoire d'une jeune fille de 15 ans et demi qui a une passion torride avec un Chinois de 12 ans, son aîné, mais aussi le portrait fracassant et fracassé d'une famille et d'une jeune fille qui tente de survivre. Et avec moi, pour ce lifting, j'ai Constance. Et avec nous, Constance.
Oui ! Une équipe de choc, ma chère Clara. Oh. Je fais des petits cris, comme ça met de la joie dans la vie des gens.
Bonsoir Pierre Bellemare. Comment ça se passe ?
Écoutez, je ne pensais pas du tout que vous alliez me comparer à Pierre Bellemare. Ouais. Il y a avec nous Liliane Roudière, Cécile Coulon et également notre guide spirituel de la journée, Joël Pagès-Pindon.
Alors, puisque vous avez le micro, Constance, gardez-le. Le roman L'Amant, donc, de Marguerite Duras, raconte cette histoire d'amour entre une adolescente et un jeune homme en Indochine dans les années 30. Si ce livre devait avoir une bande-annonce, Constance, à quoi ressemblerait-elle ?
Dans une charmante ambiance coloniale indochinoise chaude et humide des années 30, venez découvrir L'Amant, le récit intime d'une jeune fille de 15 ans et demi dans la misère qui découvre la sexualité malsaine grâce à un Chinois riche beaucoup plus âgé qu'elle, à qui elle donne son corps en échange d'argent, dans le but de pouvoir nourrir sa famille abusive et atroce, qui la pousse dans les bras de cet amant, mais qui après la tabasse en lui disant que c'est vraiment une grosse traînée de la pute.
T'étais où encore avec ton sale chintoc? Viens ici, petite salope, que maman te tape de toutes ses forces. Ouais, c'est ça? Vas-y, maman, tape-la jusqu'à ce qu'elle soit morte. Il faut la crever. Il faut la faire mourir, comme ça, elle sera décédée. Après, je pourrai aller violer la bonne et puis mettre des filles sur le trottoir.
Non, pas mon chapeau en feutre, maman, saleté, mon amour, je t'aime. Je veux te sauver, je veux que tu sois morte.
L'Amant est un récit autobiographique oppressant, un huis clos familial destructeur qui déroute le spectateur et le plonge dans le fond des abysses des rapports humains tordus et pernicieux.
Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. T'es un musicien qui fait jouer ses mains.
C'est quoi cet accent du sud-ouest? Je te rappelle que t'es mon amant chinois. Ben c'est juste que faire l'accent chinois, ça va être raciste. Du coup, je fais comme Duras, je pratique la stratégie de l'évitement.
C'est ridicule. Et puis arrête d'être romantique, moi ce que je veux c'est que tu me prennes comme dans une maison de passe. Je veux pas de l'amour, je veux du porn-up, sans sentiment.
Mais moi je t'aime, je meurs de ne pas pouvoir être aimée par toi. Même si je ne pourrais pas t'épouser parce que mon papa ne veut pas. Je vais t'aimer toute ma vie, petite Marie.
Mais enfin qu'est-ce que c'est que cette bête?
C'est un jar. Parce qu'avant de te souiller, je te fais la toilette avec un jar rempli d'eau.
Mais qu'il est con, c'est un jar, une jar remplie d'eau, c'est pas un jar.
L'amant, c'est l'écriture de la confusion. C'est la mort dans la mer. C'est la mer dans la mer. L'amertume, c'est la mer. C'est la mer sans tume. C'est l'amant, c'est...
Et l'amant, c'est aussi ce qu'on colle sur le frigo, non?
Joël Pagès-Pin, c'est fini. Joël Pagès-Pin, non, c'est fini, c'est fini. Voilà, ça ne durait
pas
longtemps.
C'était un petit peu, pour moi, un peu torturant, mais bon, avec Duras, on a l'habitude d'être mise au pilori. Duras, de toute son existence, a sans doute été l'écrivain le plus attaqué, le plus caricaturé. Alors voilà, donc il faut s'habituer.
Les ados dissipés, vous connaissez, voilà. Puisque vous avez enseigné de nombreuses années. Eh bien, figurez-vous, Joël Pagès-Pin, non, que les lycéens, ils ont parfois des questions qu'ils n'osent pas poser. Et ça tombe bien, car c'est le moment de la question qui tâche de Liliane Roudière. Tableau d'honneur si vous parvenez à y répondre.
Quand la narratrice rencontre l'homme chinois, elle est fardée, elle est habillée. L'amant chinois est plus riche que la narratrice. L'amant chinois emmène toute la famille manger dans de grands restaurants, paye les dettes du frère, etc. L'amant chinois envoie une limousine chercher la narratrice, il met à disposition son chauffeur. Bon, pardon, mais à un moment, on se demande. Il s'agit là d'amour ou de prostitution?
Ah.
Et c'est sérieux comme question.
Oui, c'est sérieux, mais la réponse est sérieuse aussi, parce que la réponse, elle est donnée par Duras. Elle appelle la petite prostituée, l'enfant prostitué. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension-là du rapport entre le chinois et la petite blanche. Mais en même temps, il faut replacer ça justement dans cet imaginaire durassien. Pour Duras, la prostitution, le côté vénal n'est finalement pas le plus important. C'est l'idée d'une ouverture extrême. Elle dit par exemple que Anne-Marie Stretter, c'est la prostituée de Calcutta. Elle est ouverte à tout, à la souffrance, à l'amour. Donc elle se livre, elle se donne. Et cette dimension quasi sacrée, d'une prostitution quasi sacrée, c'est vrai qu'on l'a, dans Duras. Et il y a peut-être aussi une dimension dans la façon dont Duras vit son érotisme. Elle parle à un moment d'une obligation servile. Et elle parle, ce qui avait fait d'ailleurs frémir les féministes, hein, de la gloire du subissement. Donc il y a cette dimension-là, et effectivement, on ne peut pas le nier. Même si, je répète, le côté vénal n'est pas le plus important.
Oui, enfin, la mère, elle a un rôle très ambigu.
Mais la mère a un rôle, effectivement.
On n'est quand même pas loin de Madame Claude. La mère se satisfait quand même beaucoup de ce que sa fille ait accès à un niveau social un peu plus élevé que le sien. Je rappelle en effet que la robe sur le bac du Mékong appartenait à la mère. C'est ambigu aussi.
Oui, mais la mère est elle-même entièrement prise par cet amour dévorant qu'elle a pour ce fils aîné dont il faut payer les dettes.
Voilà. Alors, cette émission, elle a un point commun avec l'écriture de Marguerite Duras, c'est qu'elle frappe sec. C'est net, c'est sans bavure, c'est sans complaisance, avec amour et sans pitié. Je précise cela pour que personne ne s'étonne de l'irrévérence de l'exercice qui va suivre et qui consiste à se demander s'il n'y aurait pas dans l'amant de Marguerite Duras un passage que l'on pourrait sauter, Cécile Coulon.
Alors, le passage compliqué, je ne vous remercie pas, Clara Dupont-Monod, de m'avoir mise sur cette chronique, parce que ce livre, comment vous dire, j'ai essayé de le relire pour l'émission, et voici en quelques mots mon sentiment.
Qu'est-ce que je suis déçu ? Je suis profondément déçu.
Ok. Allez.
Très, très déçu.
Je suis donc déçue.
Voilà, on avait compris.
Car après avoir aimé Les Petits Chevaux de Tarquina, Le Ravissement de Lolvestein et l'épisode 3 des Anges de la télé-réalité à Miami, eh bien reprendre L'Amant qui m'était tombé des mains à 20 ans, le livre, hein, pas L'Amant le vrai, heureusement. Enfin, en même temps, à 20 ans, je pensais plus aux frites à la cantine qu'à la frite dans mon lit, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais bref, passons, c'est pas le sujet, mais un peu quand même. Je n'avais pas réussi à 20 ans, et là, 11 ans plus tard, c'est encore pire. En fait, je suis surtout déçue par moi-même, parce que j'ai des copines qui ont des super tote bags issues du commerce équitable Made in China, imprimées comme toutes les pétasses, je lis Marguerite Duras... Ça existe. Et moi aussi, j'ai envie d'être une pétasse, mais j'ai beau faire des efforts, je n'y arrive pas. Donc, si je m'écoute, le passage compliqué du livre, pour moi, il commence à la page 2 et finit à la page 350. C'est-à-dire presque tout le livre, sauf le titre, qui permet beaucoup de blagues au bureau. T'en as pensé quoi de l'amant? Bof, c'est vite retombé. J'étais au lit avec l'amant hier soir. Quelle nuit! J'ai pas vu le temps passer. Je voudrais acheter l'amant, mais c'est pour offrir. Tu aimes la couverture de l'amant? Bref. Quand on connaît le titre original photo absolue, on se dit que Marguerite a eu la truffe lucide. Et quand même, puisque je ne peux pas vous parler d'un passage à sauter, parce que sinon cette chronique durerait le temps d'un brushing de Dick Rivers, paix à son âme, je vais vous parler des passages à ne surtout pas sauter, les descriptions des lieux. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mékong, sur le bac qui est entre Vinlong et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, celle des oiseaux. Je descends du car, je vais au bastingage, je regarde le fleuve. Ma mère me dit quelquefois que jamais de ma vie entière je ne reverrai des fleuves aussi beaux que cela, aussi grands, aussi sauvages. Le Mékong et ses bras qui descendent vers les océans, ces territoires d'eau qui vont aller disparaître dans les cavités des océans, dans la platitude à perte de vue, ces fleuves, ils vont vite, ils versent comme si la terre penchait. C'est beau, c'est dense, on dirait Thalassa sous-titré par Vincent Delerme. Ne boudons pas notre plaisir. Il y a dans ce roman de nombreuses pistes bien plus intéressantes que l'amourette du chinois qui s'encroûte et de la jeune fille qui s'ennuie, le rapport entre les cultures, entre les membres de la famille, les questions d'argent, d'apprentissage et de langage. L'amant, c'est bien, la mère, c'est mieux.
Merci Cécile Coulon. Joël Pagès-Pendant, ce que disait Cécile à propos justement du rapport entre les cultures, qu'est-ce qu'on peut en savoir en lisant L'amant de Marguerite Duras?
Alors il est vrai que L'amant n'est pas un livre à vocation, je dirais politique, ça n'est pas un livre d'engagement. Par exemple, Le Barrage, lui, est un livre qui a été un livre d'engagement contre ce qu'elle appelait le grand vampirisme colonial, avec des descriptions terribles de l'exploitation des indigènes, de la mort des enfants dont le corps se mêle à la boue des rizières. Bon, là, il n'y a rien de tel, hein, on est dans une autre dimension, ce récit initiatique dont on parlait au début. Mais néanmoins, il y a tout de même, dans la grande violence, dans les passages de violence, une référence à la violence des relations entre les êtres, entre les classes, entre les races. Et ça, il y a plusieurs personnages qui le montrent. Hélène Lagonel, le personnage aussi de la mendiante, hein, qui fait une apparition, une dernière apparition. Elle apparaît constamment dans l'œuvre de Duras. Cette mendiante folle qui est vraiment l'emblème de la misère, hein, celle qui vend ses enfants parce qu'elle ne peut pas les nourrir. Donc tout cela est présent, cette violence. Et le chinois, il est bien dit que son père vit finalement de la misère des indigènes en construisant des compartiments bon marché.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans la société coloniale déclassée. La mère de l'héroïne est juste, entre guillemets, institutrice. Elle n'a pas assez d'argent pour mener grand train avec ses trois enfants. Le père a disparu. On est quand même dans une société coloniale déclassée, c'est pas celle qu'on a l'habitude de lire.
Oui, c'est vrai que là, c'est justement cette blessure du déclassement qui fait que Duras parlera d'injustice et parlera de l'épopée tragique de sa mère. Ce sont des petits blancs. Effectivement, là, il y a cette dimension qui est présente, même si elle n'est pas la plus importante dans l'amant.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill.
Me? I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me.
I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me.
I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
Lady Gaga en duo avec Tony Bennett, I get a kick out of you.
France Inter, Livre et Châtiment, Clara Dupont-Mono.
J'arrive chez elle, me dit, est-ce que tu trouves que je suis génial? J'ai dit oui. Elle dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis génial.
Faites la révérence, ouvrez la bouche, ouvrez la grande, et répondez toujours, oui, votre majesté.
Oui, votre majesté.
Gérard Depardieu en 2015, suivi d'un extrait de Alice au Pays des Merveilles. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission aux mœurs juvéniles qui déshabille l'amant de Marguerite Duras avec maladresse et fébrilité. L'histoire d'une adolescente qui survit au sein d'une famille toxique et qui vit une histoire d'amour avec un homme plus âgé, plus riche, le tout sur fond d'Indochine dans les années 30. Pour cet effeuillage, je suis escortée de Constance, et avec nous Constance.
Mais oui, je suis là, et avec nous il y a Liliane Roudière, Cécile Coulon, Joël Pagès-Pindon, nous sommes la folle équipe des Schneckaneurones.
Alors, nous parlons depuis presque une heure de la narratrice adolescente de L'Amant, de Marguerite Duras, mais elle n'a toujours pas parlé. Il est temps de réparer ça, et comme elle rencontre son amant sur un bac qui traverse le Mékong, pour l'interviewer, je vais moi aussi prendre ce bac. Ouf, ça y est, j'ai cru que j'allais rater le bac. Bon, alors elle est où notre héroïne de L'Amant? Ah, la voilà, là-bas, accoudée au bastingage. Ouh, ça tangue. Bonjour.
Ah, faut pas me parler là, je suis malade là. Ah, oh, j'ai mal de mer. Oh, un bac, sans déconner, ils pouvaient pas construire un pont non plus.
Bah non, sinon il y aurait pas eu de livre. Dites, vous voyez la voiture là-bas?
La Punto?
Mais non. Oh, oh. La limousine noire, là, avec le monsieur élégant qui vous regarde.
Ah bah ça c'est normal, je vous rappelle que je suis maquillée comme une escort girl, que je porte des talons hauts et une robe transparente, robe qui appartenait à ma mère. Bonsoir Freud. Donc en toute logique, oui les hommes me regardent. Ouch, oh là là, vous avez un gerbasson là, ça va pas du tout.
Ah non, désolé, non j'ai pas.
Bon, allez demander au chinois là-bas en costard s'il vous plaît là.
Vous voulez... Attendez, vous voulez que je lui demande un gerbasson? Non mais, attendez, il vient vers nous.
Ah non mais vas-y, c'est pas le moment, je suis trop dans le mal là. Mais qu'est-ce qu'il me donne là?
Il vous tend un porte-cigarette, il vous propose une cigarette quoi, une anglaise en plus.
Non mais il est pas bien, une clope. Attends mais j'ai le vide retourné, puis d'abord je fume pas, j'ai 15 ans et demi, il est ouf lui.
Bon alors, dans le livre c'est plus joli, hein. Dans le livre vous dites non merci.
Avec une révérence aussi, non? Non mais attends, je suis plantée sur un rafio pourri, habillée comme si j'allais au palace. Je fais des allers-retours de hamster sur ce fleuve boueux qui me rend malade, entre une mère déglingo et un frère qui ressemble à Émile Louis. Faudrait en plus que je sois polie. Ah d'accord.
Non mais arrêtez de vous énerver parce que ça fait tanguer le bac, et puis votre estomac va chavirer. Tiens, voilà, le monsieur chinois il est reparti, c'est malin. Il n'y aura pas de romance, il n'y aura pas de livre, il n'y aura rien. Et il vous reste plus qu'à verser des rizières de larmes.
Ouais, bah c'est autre chose que je vais verser, moi. Un des petits pois.
Voilà, Joël Pagès-Pindon, avec toutes mes excuses, hein, ce qu'aurait pu être la rencontre ratée entre Marguerite Duras et son amant, à la merci d'un gerbasson, hein, comme quoi ça ne tient à pas grand-chose. Alors, sur le bac et durant cette rencontre, Marguerite Duras écrit « Elle est sans haine, sans répugnance non plus. Alors, est-ce sans doute là déjà du désir ?» Et j'ai envie de lui dire « Bah non. » Ou alors, il y a un vrai problème. Parce que c'est une très étrange approche du désir, Joël Pagès-Pindon, non ?
C'est vrai que la formule que vous citez, à ce moment-là, à cet endroit-là, ne correspond guère à une définition attendue du désir. Pas plus pour nous que pour Duras. Mais je pense que là aussi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'ambivalence de cette adolescente qui découvre son corps, qui découvre ce que c'est que le désir de l'autre, qui ne le ressent pas encore elle. Et d'ailleurs, Duras, là-dessus, insiste beaucoup. Pour elle, on ne peut pas ressentir de désir pour quelqu'un qui ne vous désire pas. Donc, c'est en fait le désir de cet amant qui va éveiller en elle son désir. Et il est important, justement, on évoquait tout à l'heure cette question de l'atmosphère coloniale. Haine et répugnance, ça pourrait être ce qui guide d'emblée une petite blanche face à un chinois qui manifesterait son désir. Donc, ça n'est pas une définition, je crois, duracienne du désir, mais là, ça a un sens.
Alors, vous le savez, capitaine Pajas-Pindon, on ne pilote pas un bac, ni une société coloniale, ni d'ailleurs un salon de manucure, et encore moins une émission de radio, tout seul. On est secondé. Le personnage secondaire est même essentiel, et c'est l'affaire de Liliane Roudière, focus sur un personnage secondaire de l'amant.
Je vous préviens tout de suite, on va pas rigoler. Là, c'est...
Bon, ça nous changera un peu.
Voilà. Désolée. Alors, on aimerait s'en passer, mais ce personnage secondaire est essentiel. C'est le frère aîné. Lorsque j'ai lu L'Amant, j'avais l'âge de l'héroïne, autour de 16 ans. J'étais encore pucelle de corps et d'esprit, alors forcément, je n'ai gardé que le souvenir des scènes d'amour. À la relecture, c'est presque tout le contraire. Est apparu, en gros plan, une famille singulière. Singulier, vous savez, c'est le mot que vous employez quand on dit « alors, t'as lu mon livre ?» et tu dis « il est singulier ». Ici, je dis « famille singulière » donc, pour ne pas dire « folle » ou « dysfonctionnelle ». Et qui revient tout le temps sur le tapis ? Le frère aîné. Ce venin sur pattes empoisonne toutes les artères de la famille. Il ajoute de la misère à la misère. Délinquant, drogué, violent, Duras le hait. Ils vivent sous son emprise, son petit frère est son martyr. Il lui pique sa viande, lui fout des coups. Alors celui-ci se retire dans la maigreur et le silence. La sœur, elle, fait ce qu'elle peut à hauteur de son adolescence et d'un corps en fusion que l'aîné a repéré. Elle écrit « Je ne peux pas lutter contre ces ordres muets de mon frère ». Certes, le fondement de la fraternité exige d'inclure les éléments défaillants. Mais où sont les limites ? Les années passent, le frère aîné grandit mal, à la libération il réapparaît chez la narratrice, elle le soupçonne de collaboration. L'indice, je cite, « il est très doux, comme toujours après ses assassinats ». On pourrait dire pareil de Guy Georges peut-être. Elle l'héberge, c'est son frère. Il la pille, emporte tout, économie et réserve de sucre et de riz qu'elle a mis de côté pour son mari déporté. C'est immonde. Mais elle écrit « je ne lui en parlerai pas. La honte est si grande pour lui. » Sérieux. Moi, je lui aurais claqué son beignet à lui.
Bah oui.
C'est dingue, ce lien de famille, amour, haine. Ça colle, ça poisse comme un chewing-gum sous une godasse. Mais le grand frère est adoré par la mère. Elle ne s'oppose jamais à lui, même quand il tabasse le petit frère. La mère ne se défera jamais de cet amour monstrueux. Elle lui lèguera tout son héritage. Marguerite aura des miettes. Quant au petit frère, il est mort depuis bien longtemps. Aujourd'hui, le fils préféré repose auprès de sa mère dans la tombe. La petite sœur, que Duras est restée, écrit « eux deux seulement ». L'image est d'une intolérable splendeur. Et là, il y a tout le chagrin du monde.
Merci Liliane Roudière. Joël Pagès-Pindon, c'est un ressenti que nous partageons autour de cette table. Aversion pour le grand frère et aussi pour la mère qui, en effet, Liliane l'a dit, ne s'oppose pas à lui. Comment l'expliquez-vous ?
Oui, on dirait aujourd'hui qu'il s'agit d'emprise. Il y a une véritable emprise de ce frère aîné de Pierre, emprise d'abord sur la mère et ensuite sur les deux cadets, le petit frère et Marguerite. Mais cette emprise, elle elle est aussi ambivalente parce que pour avoir l'amour de la mère, ce que recherche désespérément Marguerite, il faut en passer par le frère aîné. Donc on ne peut pas s'opposer totalement à ce frère aîné, même si elle le dit à plusieurs reprises, je voulais tuer ce frère aîné.
Parce que le risque, c'est de perdre la mère à
c'est
ce moment-là.
C'est de perdre la mère, voilà. Et de perdre l'amour de la mère. Elle dit que sa mère l'aimait d'un amour profond, mais qu'en même temps, elle ne pouvait pas la souffrir. Donc il y a cette espèce d'ambivalence. Elle sait très bien, Duras, toute sa vie, un peu comme Gide, ne voulait pas être aimée, elle voulait être préférée. Et là, elle savait très bien que la préférence de la mère, c'était au frère aîné. Mais voilà, on est dans la complexité de ces relations familiales et de cette fratrie, oui.
Constance.
Oui, le père est complètement inexistant, en fait. Il est juste malade et après mort, mais il n'y a aucune...
Le père meurt quand Marguerite a 7 ans. Elle dit d'ailleurs qu'elle a été orpheline de père à 4 ans. En réalité, non, c'est à 4 ans, il a été nommé un peu loin et elle ne le voyait plus. Donc, il y a une absence du père. Et elle dit aussi, et ça que c'est très important, que sa mère a été à la fois le père et la mère. Donc, c'est vrai que cette absence fait que le fils aîné investit finalement le pouvoir patriarcal à la place du père absent.
Respire encore de Clara Luciani.
Livre et châtiment.
Aïe !
Vous dites écrire, c'est n'être personne.
Oui.
C'est une phrase qui me semble. Que je ne comprends pas toujours, je dois dire.
Ah bon ?
Pas toujours.
Vous savez, je ne comprends pas toujours très 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 bien ce que je dis. Ce que je sais, simplement, c'est que c'est complètement vrai.
Oh, personnellement, moi, j'adore cette phrase.
Je plus sois.
Vous écoutez Livre et Châtiment, qui aurait pu s'appeler Livre et Châtament, puisque c'est l'amant de Marguerite Duras, à qui nous avons percé les boutons d'acné ce dimanche. Comme toute adolescence, cette émission a une fin. L'amant de Marguerite Duras aussi. Le dernier paragraphe, alors il est poignant, mais je m'égare, je vous lis la dernière phrase. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. À ce moment-là, les deux amants ne se sont pas parlé depuis des décennies, lorsque soudain, l'ex-amant a téléphoné et donc lui dit ceci, qu'il l'aimera toujours, qu'il l'aimera jusqu'à sa mort. Eh bien, chers auditeurs, malgré la beauté de cette fin, nous vous proposons de la réécrire. Je sais que c'est difficile, mais vous pouvez tout aussi bien pousser ce romantisme plus loin, imaginer que l'ex sonne à la porte, ou bien que Duras et lui n'ont pas été séparés, qui coulent des jours heureux dans un petit pavillon en meulière, ou alors, allez-y franchement, Duras a fait un coup d'état en Indochine, elle a nationalisé la compagnie des Bacs, elle s'est inspirée d'Anne Hidalgo pour créer Mekong Plage, ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que votre fin doit faire 5 lignes maximum. Elle doit nous être envoyée avant demain 17h. Je sais, c'est court, mais c'est comme un trajet en bac, rapide mais riche en événements. L'adresse de l'émission, livre-et-châtiment@radiofrance.com, au singulier, tout attaché. Et la meilleure fin sera lue à l'antenne par Constance, dimanche prochain. Alors la semaine dernière, c'est Boule de Suif de Guy de Maupassant, dont vous deviez réécrire la fin. Petit rappel, le livre s'achevait sur cette prostituée au grand cœur, humiliée par les bourgeois dans une diligence, et les larmes roulaient en silence sur ses joues rebondies. Vous nous avez pondu de ces trouvailles, il a fallu choisir. Et la meilleure fin, Constance, est attribuée à
Thierry Poncé, du canton de Saint-Just-en-Chaussée. Il a été tellement inspiré qu'il a joué 3 fois.
Il a envoyé 3 fins.
Oui.
Voilà, merci Thierry. Il a la win, Thierry.
Donc je rappelle que les personnages de l'histoire se trouvent à nouveau coincés côte à côte dans l'habitacle étroit d'une diligence. Après avoir séché ses larmes, n'ayant plus d'appétit, Boule de Suif péta.
Oh non.
Un pet de putain. Voilà qui devrait les occuper un moment, songea-t-elle. Cette pensée la consola un peu. Fin.
C'était la fin donc de Thierry Poncet, c'est
on
bien ça.
On a le public qu'on mérite.
Absolument. Thierry qui vient du canton de Saint-Just-en-Chaussée, qui est près de chez vous, Constance.
Absolument.
En plus, alignement des astres. Bravo pour cette fin choisie par Constance, ce qui n'étonnera personne, mais qui nous a fait bien rigoler.
Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas les essais de montagne?
J'ai vu le tournoi des 7 nations et tout, je connais Rive, je connais Steve.
Qu'est-ce que ça peut être les essais de montagne à votre avis?
Ça peut être un très bon joueur.
Un joueur de
rugby, je pense.
Allez, on est presque arrivé à bon port. Dernière escale avec nos plongeurs en eau profonde. J'ai nommé les libraires. Chaque semaine, en partenariat avec la revue Page des libraires, évidemment disponible en librairie, nous demandons à un libraire quelle est la question la plus farfelue entendu dans sa boutique. Et cette semaine, c'est Jean-François Delapré, de la librairie Saint-Christophe à Lennevin. Précisons quand même que votre librairie vient de fêter ses 75 ans, mais qu'elle garde sa fraîcheur de jeune fille. On est d'accord?
On est tout à fait d'accord.
Alors Jean-François, quelle est la scène la plus farfelue ou la question la plus farfelue que vous avez entendue ou vue dans votre boutique?
Eh ben, il se trouve que là, c'est celle qui nous occupe aujourd'hui. C'est une toute récente qui est pleine d'actualité puisque c'était jeudi dernier, le 16 septembre. Il y a une dame très bonjour qui rentre dans la librairie et qui nous demande, est-ce que vous avez le livre qui sort aujourd'hui, là? Vous savez, vous savez, il y en a beaucoup. On a plein de cartons livres qui sortent aujourd'hui. Mais si, quand même, le livre d'Elise Semoun. Ah, si, Elise Semoun sort un livre aujourd'hui. Pas au courant. Et là, on a un éclair, on fait, ce serait pas plutôt Éric Zemmour? Alors là, je sais absolument pas. Je rentre à la maison et je demande à mon mari. Et j'ai surtout essayé d'imaginer le saut quantique entre Éric Zemmour et Élie Semoun.
Le saut quantique, je crois que c'est ça, en fait, la bonne expression.
Ouais.
Bon, bah merci beaucoup Jean-François.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Ça y est, le bac vient de heurter la rive. Merci Joël Pagès-Pindon d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur de Marguerite Duras, l'écriture illimitée chez Ellipse en 2012. Et puis parmi d'autres ouvrages que vous retrouverez sur la page web de l'émission. Merci Constance. Iliane Roudière, Cécile Coulon. Merci à Futuro Pello pour le générique de Livre Châtiment. Ça lui va comme une sandale dorée sur le pied de Marguerite Duras, debout sur un bac. Livre et Châtiment, c'est Stéphanie Texier à la réalisation, Fanny Leroy en chargée de programme, Sybille Clamins à la technique. Bonne semaine, n'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié. À dimanche prochain, on vous embrasse.